Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Une thérapie un peu spéciale aujourd'hui Gauthier, puisque comme tous les ans à la période de la Toussaint, nous allons vous conter la mort d'une gloire du Panthéon du Rock. Alors, faut dire qu'elles sont nombreuses, ces morts souvent plus cocasses les unes que les autres, mais on y retrouve généralement les mêmes ingrédients, à savoir un musicien un peu fêlé, de l'alcool et de la drogue. Et bien, figurez-vous que l'histoire de ce jour ne déroge bien entendu pas à la règle, puisqu'on va évoquer la perte d'un des plus grands sex-symboles des années 60, né en Floride et mort à Paris à l'âge de 27 ans. Étonnant, non? Vous l'aurez compris, c'est bien de Jim Morrison, chanteur charismatique des Doors, et de sa mort entourée de mystères dont il va être question dans cette émission. Je vous propose qu'on débute cette émission justement en s'écoutant Lover Madly, paru sur l'album Elle est Woman, le sixième album des Doors qui est sorti en avril 71, 3 mois donc avant le décès de Morrison. On s'écoute Lover Madly.
Don't you love her badly? Wanna meet her there?
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Dans l'émission de ce jour, on évoque la disparition de Jim Morrison, le chanteur iconique des Doors. Gauthier, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler qui était Jim Morrison ?
Non, on va partir du postulat que tout le monde sait, donc c'est le chanteur des Doors, effectivement. On va passer aussi sur le Père Lachaise, lieu où il est enterré, tombe mythique, perpétuellement fleuri depuis sa mort par des fans. Ce que les gens savent un peu moins, c'est un peu les détails de cette journée, ou la chronologie de cette journée tristement célèbre de 71, où il va connaître... le décès.
Oui, rencontrer la mort.
Et surtout, voir le roi lézard, parce qu'on le surnommait ainsi, rejoindre le fameux club des 27, mon cher Théo. C'est un peu ce qu'on avait fait aussi pour Ian Curtis. On était revenu principalement aussi sur les dernières minutes de sa vie.
Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu partie de la culture populaire de base, tout ça. Mais Gauthier, il y a des choses qu'on ignore, et notamment le caractère tempétueux de Morrison.
Oui, parce que, en fait, sa mort ne surgit pas de nulle part. Comme tu l'as dit très justement dans ton édito, c'est souvent des gens qui sont déjà dans le sexe, le drogue et la rock'n'roll, et souvent un peu déjà sur la pente descendante. Et force est de constater qu'à l'époque, Jim Morrison, c'est une bonne galère à gérer. Un exemple, par exemple, en 1969, 2 ans avant sa mort, il harcèle le personnel d'une compagnie aérienne lors d'un vol à destination de Phoenix. Et il sera accusé, je crois pas condamné, mais accusé, je cite, d'avoir interféré avec le vol d'un avion intercontinental. Et pour ivresse publique, je rappelle que c'est une vraie infraction, puisqu'il y a un mec qui s'est fait gauler il y a pas longtemps encore pour avoir arrêté un vol en Espagne complètement bourré.
Voilà. Alors, c'est vrai que ce bon Jim semble tricard d'American Airlines, mais pas que. Il faut rappeler qu'il a quand même un petit grain et que ce petit grain va l'empêcher d'exercer son gagne-pain, ce qui est quand même plus embêtant qu'être privé de Miles Gauthier.
Oui, et on est toujours dans les derniers mois de sa vie, les dernières années de sa vie. Effectivement, lors d'un concert à Miami en Floride, le 1er mars 1969, dans une salle qui s'appelle le Diner Key Auditorium, un Morrison manifestement un peu bourré va tenter de déclencher une émeute et une bagarre dans son public en criant notamment, pardonnez-moi chers auditeurs, mais est-ce que tu veux voir ma... Voilà. Et tout un ensemble d'autres obscénités, bien évidemment accompagné du geste. Il sera condamné pour ça, pour exposition indécente et blasphème par un jury de 6 personnes à Miami. Condamné à 6 mois de prison, libéré sur caution, hein, ça reste quand même Jim Morrison. mais voilà.
Et 3 mois après ce bel happening, quand c'est pas la justice qui le prive de concert, c'est Morrison lui-même qui décide de saborder les shows prévus.
Oui, dans le cadre d'une forme d'happening aussi, puisque Jim Morrison fait des grèves. Effectivement, par exemple, le 12 décembre 1970, on est vraiment quelques mois avant sa mort, là, pour la peine, il refuse de se produire et s'assoit sur scène en purement et simplement ne jouant pas. Voilà, parce qu'il avait décidé qu'il était temps que ça s'arrête. Comprendre que ça fait un certain temps que ce bon Jim, qui n'a jamais été l'homme le plus rangé des bagnoles, est quand même franchement sur une pente descendante.
Ouais, et qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite. Mais avant de prendre sa retraite, il reste quand même un contrat à honorer, parce que les Doors avaient signé avec leur maison de disques Elektra un contrat portant sur 6 albums à pondre. Et le dernier album, on le connaît tous, Gauthier.
C'est LA Woman. On a entendu Love Madly tout à l'heure en ouverture d'émission. Mais vous connaissez tous une autre chanson de cet album. C'est la chanson, bien évidemment, Riders on the Storm.
Riders on the Storm, donc on va continuer à s'écouter quand même un petit peu à fond. Donc il était paru sur l'album LA Woman, donc Los Angeles Woman. Et de Los Angeles à Paris, il n'y a qu'un pas que Morrison franchit allègrement. L'histoire ne dit pas s'il s'est rendu en France avec un avion. Tu nous racontes un petit peu ce que Morrison faisait à Paris, Gauthier ?
Alors, il essayait de fuir la célébrité. Aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque Paris ne semble pas la ville, en principe, la plus indiquée pour fuir la célébrité.
Peut-être à l'époque.
Il vient de terminer son engagement avec le label Elektra, et donc il est libre, officiellement, et il va donc s'installer rue Beautreilly, et commencer une sorte de vie de... pas Dolce Vita, puisqu'on n'est pas en Italie, mais une vie de petit Parisien simple. Ouais. Il arpente le Marais, Saint-Germain-des-Prés. Voilà, ça va durer 4 mois. Et ils sont entrecoupés, je crois, d'un séjour au Maroc et en Espagne. Et en fait, peu de locaux, peu de Parisiens savent qu'il est...
Il n'y a pas Internet.
Voilà, et... Bon, faut dire qu'aussi, à l'époque, sauf de ma part, il avait quand même pris quelques kilos, il avait une grosse barbe, etc. Il ressemblait plus au Père Noël qu'à une rockstar américaine. Et donc, il erre en toute discrétion, en ne parlant pas un mot anglais, en français, pardon, excusez-moi. Et au fond, c'est ce que Jim Morrison, à l'époque, recherche.
Une vraie vie de bohème, donc, pour Morrison. Mais il n'est pas venu seul à Paris, Gauthier, parce qu'il a pris avec lui ses addictions... et sa petite amie.
Oui, et manque de bol, c'est un panaché pas terrible, puisque, bon, lui demeure extrêmement addict à l'alcool, et sa compagne de l'époque, Pamela Courson, a un petit vice pas GG, c'est l'héroïne.
Ah, et c'est à ce moment-là, l'émission qu'on bascule, on va basculer un petit peu dans la spéculation, Gauthier, est-ce que tu peux nous raconter, donc, sa petite amie de l'époque, elle s'appelle Pamela Courson,
Courson, je pense, elle est française, non ?
Ou non. Je suis pas certain, Pamela...
Non, oui, non, je crois, il faudrait que je le regarde.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la dernière soirée de Jim Morrison selon Pamela ?
Alors, c'est selon Pamela, tu as bien raison Théo, parce que comme pour beaucoup de morts de rockstar, on se souvient de celle de Jim Hendrix dont on avait parlé aussi, il y a...
Il y a des petits doutes.
Il y a des petits doutes.
Ouais, Brian Jones, pareil, il y a toujours des petits doutes.
Et en fait, au fond, très souvent, ces doutes sont dus à des décalages d'annonces de décès, très probablement pour que les gens aient le temps de faire le ménage dans l'appartement, je pense, ou ne pas se faire eux-mêmes gauler dans un état second. Mais bon, écoutons cette bonne Pamela. La dernière nuit de Jim Morrison à Paris, selon elle, ben, c'est une soirée normale. Un petit dîner dans un restaurant chinois, et puis plus tard un film, Robert Mitchum au cinéma, bon, voilà, pourquoi pas. Et finalement, il retourne rue Beautreilly se coucher. Plus tard, selon Courson toujours, elle est réveillée par la respiration laborieuse de ce bon Jim Morrison qui sûrement ne digère pas les ravioles et donc il lui indique qu'il va prendre un bain. Le lendemain, à l'aube, elle le retrouve mort. Les médecins sont appelés dans les 72 heures, ce qui est quand même un délai assez large pour appeler quelqu'un qui dans sa baignoire et qui ne bouge pas.
C'est long comme massage cardiaque, 72 heures.
Et le médecin qui arrivera constatera, selon lui, que donc ce bon vieux Jim est mort d'une insuffisance cardiaque. Le corps va être retiré de l'appartement, et vu que ce bon Jim Morrison se décrivait lui-même comme un poète, il va y avoir une demande qui sera faite pour qu'il soit enterré au cimetière des poètes, à savoir au Père Lachaise. Cette autorisation sera accordée, il y est toujours, puisque pas de raison d'en manger.
Non, exactement. On se marque une petite pause, Gauthier ?
Avec grand plaisir.
Et on s'écoute Light My Fire. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on vous raconte la mort de ce bon Jim Morrison. Comme quoi, Light My Fire, c'est toujours aussi efficace quand même. Je rappelle que c'est sorti sur le premier album des Doors, c'est en 67. Mais on retourne, nous, tout de suite en 71, l'année de la mort de ce pauvre Morrison. Quelles ont été les réactions à l'annonce de la mort ?
Alors, des funérailles déjà très rapidement évacuées, deux jours après seulement sa mort, ce qui est normal, on va dire, compte tenu du fait que si on avait annoncé sa mort, il y aurait probablement eu un déferlement d'individus.
Ouais, sa mort immédiatement, tu veux dire
Oui, voilà. Ouais. Et donc la nouvelle est rendue publique après, et bien sûr, comme aussi souvent avec des morts de rockstar, et bien c'est parti pour le panel de théories loufoques.
Et alors, fait assez rare pour être noté quand même, on n'a pas eu d'autopsie sur le corps du chanteur, Gauthier.
Non, ben, je pense que c'est très probablement dû au fait que sa mort a été déclarée très tardivement.
Et ouais. Il n'y avait plus rien à autopsier.
Il n'y avait plus grand-chose peut-être à autopsier. Ou bien peut-être qu'ils se sont opposés, les présents, à l'autopsie. Bon, il y a tout un ensemble de choses un peu bizarres. Mais de fait, quand il n'y a pas d'autopsie, ça augmente la possibilité d'avoir des théories un peu bizarres. L'hypothèse générale est bien évidemment que Jim Morrison est malheureusement mort d'une overdose d'une drogue, peu importe. Mais il y a des théories qui sont nettement plus baroques.
Comme ?
Ah, alors,
fais-moi rêver.
Peut-en sortir une si tu veux.
Ah bah oui.
Il y a la théorie de la CIA, c'est-à-dire que Jim Morrison aurait été en fait assassiné par la Central Intelligence Agency des États-Unis.
Mais il faut un motif pour ça, gars.
Alors le motif, Théo, existe puisqu'en fait la CIA essayait de se débarrasser des icônes importantes de la contre-culture. Martin Luther King aurait été assassiné, bien évidemment, également par la CIA, etc., etc. Bon, c'est une théorie que je pense qu'on peut qualifier assez facilement de fumeuse.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est pas tout, Gauthier. Une autre théorie fait bien état d'une overdose. En revanche, elle ne se serait pas du tout produite dans la baignoire de la rue Beautreillis.
Oui, alors à propos de fumeuse, hein, Pamela Courson est née aux États-Unis dans la petite ville de Weed. à propos de fumette.
Joli.
Voilà. Tu me disais, Théo, excuse-moi.
Je te disais que donc il y avait une seconde théorie qui parlait bien d'une overdose, mais qui ne serait pas produite dans la baignoire.
Oui, et qui est peut-être un tout petit peu plus cohérente avec, on va dire, la découverte un peu tardive, on va dire, du corps de Jim Morrison. Cette théorie veut qu'en fait, Jim Morrison est mort dans une boîte de nuit, ou tout du moins que c'est mal allé dans une boîte de nuit. Il n'était pas du tout au ciné, notre ami.
Ouais.
Le Rock'n'Roll Circus, qui était une boîte de nuit très connue à l'époque à Paris. Et c'est une théorie qui a été alimentée par quelqu'un d'assez célèbre, puisqu'il s'agit de Marianne Faithfull himself, ou herself.
Herself, ouais.
Voilà, puisqu'en 2014, elle a déclaré que son petit ami de l'époque, un dénommé Jean de Breteuil, un nom très classe pour en fait simplement un dealer de drogue, assez célèbre du tout Paris, avait fourni à Morrison de la drogue donc dans cette boîte de nuit qui aurait été un tout petit peu surdosée. Et Marianne Faithfull, je la cite, a déclaré au magazine Mojo, il est allé voir Jim Morrison et l'a tué. Je veux dire, je suis sûr que c'était un accident. Pauvre bâtard, la claque était trop forte, ouais, et il en est mort, la claque, c'est bien évidemment. La drogue, ça permet peut-être d'expliquer la présence de Jim Morrison dans une baignoire quand on l'a trouvé mort, puisque le fait de plonger quelqu'un qui est en train de faire une overdose dans un environnement, on va dire, très froid, j'ai toujours entendu dire que ça permettait de redescendre rapidement.
Ah, je connaissais pas cette théorie.
Ouais, bon, il n'est pas redescendu du tout.
Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, Jim Morrison aurait fait un coma dans la boîte de nuit, ou on va dire un très 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 fort malaise. Il aurait été ramené chez lui, mis dans un bain pour essayer de voir si on arrivait à s'en sortir, puisque malheureusement pour lui, je pense qu'il était hors de question de l'amener à l'hôpital, vu que tous ses potes devaient être dans le même état. Et vu qu'il est mort, voilà. On a appelé les secours.
Et puis, on a comme d'habitude la fameuse rumeur selon laquelle, comme Arthur Rimbaud... par exemple, il aurait simulé sa mort.
Oui, comme Arthur Rimbaud ou comme une autre star du rock, bien évidemment, c'est le King Elvis Presley. Certains pourront vous annoncer dans un apéro un soir qu'en fait, non, Jim Morrison est toujours en vie avec Elvis Presley, probablement.
Et Hitler sur la Lune.
Sur la Lune. Il y a un film sur ça qui s'appelle Moon, je sais pas quoi, qui est une théorie selon laquelle les nazis se sont.
Eh oui, sur la face cachée.
Sur la face cachée de la Lune et qui reviennent envahir le monde. Théo, plutôt que des théories fumeuses, je te propose un autre petit extrait des Doors, la chanson Roadhouse Blues.
Keep your eyes on the road you have to pound the wheel. Et Gauthier, on va se laisser en fond, Roadhouse Blues quand même. Ces funérailles, donc les funérailles de Jim Morrison, sont faites dans ce qu'on peut appeler vraiment la plus stricte intimité.
Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le 7 juillet, ils sont que 5 tout au plus, présents, probablement ses potes de la soirée au Rock'n'Roll Circus, toujours bien évidemment pour éviter de rendre publique la nouvelle et de voir arriver une horde de fans.
Et donc, il y a une particularité quand même sur la stèle de Jim.
Oui, alors pour les 3 millions de personnes qui tous les ans visitent sa sépulture, c'est quand même énorme, et d'ailleurs étonnant parce que c'est pas peut-être la plus grande star de tous les rockstars de tous les temps.
Il y en a peut-être d'autres. Ouais, c'est devenu une icône.
C'est absolument. Il y a une plaque en bronze sur la tombe qui est inscrite en grec. Ça a été choisi par le père de Jim Morrison, l'amiral George Morrison, et il est écrit Kata ton ainoma iatoi. Enfin bon, je suis pas très grec. Ce qui aurait deux traductions, tel est son propre esprit, ou bien selon son propre démon, ce qui est une double façon pour son père de rendre hommage tout à la fois au génie de son fils, mais également bien évidemment
à ses démons,
à sa face cachée.
Ouais. Et justement, en parlant de l'amiral George Morrison, t'as une info amusante à délivrer sur le père de celui qui se voulait le chantre du No War et des Protest Songs.
Ouais, c'est, rien que l'émission pouvait être construite uniquement autour de cette anecdote. Effectivement, le père de Jim Morrison, vous m'avez entendu dire l'amiral George Morrison, il était effectivement dans l'armée et il est plus ou moins considéré comme l'un des pères de la guerre du Vietnam. Alors, je connais rien à la guerre du Vietnam, mais Morrison était apparemment à la tête de la division des transports lors d'un incident qui avait eu lieu dans le golfe du Tonkin en 64 et qui est plus ou moins considéré comme l'incident qui a créé l'escalade qui a donné la guerre du Vietnam. Donc effectivement, le papa de Jim Morrison, le grand patron du Flower Power, était lui-même quasiment le créateur de la guerre du Vietnam, bien involontairement, bien évidemment, je suppose, mais je ne connais rien à la guerre du Vietnam.
Peut-être que la CIA est derrière tout ça, Gauthier, on ne sait pas.
Mais ça fait quand même une anecdote absolument improbable.
Avant de se quitter, t'as un petit conseil guide du routard.
Oui, alors c'est des anecdotes que j'ai trouvées sur internet. Il y a même des tours qui sont bien évidemment vendus, tu sais ce commandement où tu peux faire le tour Slumdog Millionnaire. Sordide au demeurant, parce que ça te fait aller dans des bidonvilles indiens, mais enfin passons. Tu peux avoir un petit guide touristique qui te dira qu'il faut que tu ailles chez le caviste préféré de Jim Morrison, c'était 25 rue Beautreuil, et que à quelques portes de son appartement, et que tu peux même boire comme Jim Morrison. Ce dernier apparemment avait l'habitude de boire du vin blanc, du Bordeaux de préférence. Je sais pas ce qu'il y a de vrai ou de faux, est-ce que c'est pas ce caviste qui se fait de la pub, j'en sais rien. C'est ce que j'ai trouvé sur internet, mon cher Théo.
Un dernier conseil ?
Oui, beaucoup plus sérieux. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez un remarquable documentaire qui était sorti à l'époque, mais je crois que vous pouvez encore retrouver sur Arte, sur notamment les derniers jours de Jim Morrison à Paris, qui est absolument extraordinaire.
Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en s'écoutant The End. Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement ? Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une petite prescription décalée. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut, mon bon.
Salut, à lundi.
No safety or survival.